Ce sixième jour de la neuvaine, notre regard se tourne encore et toujours vers Marie, Mère de Dieu, celle qui réconforte et apaise, à travers l'invocation touchante « Ne méprise pas nos prières ». Cette supplication, simple et humble, exprime la confiance de l'enfant envers sa mère. Elle nous invite à accueillir l'espérance comme un baume qui guérit nos blessures cachées et transforme nos épreuves en chemin de sanctification. En ce jubilé de la miséricorde, inauguré par le pape François, Marie, l'Immaculée, se révèle comme la mère qui console, celle qui n'ignore aucune de nos peines et qui, par son intercession, nous ouvre à la tendresse divine. En invoquant la Vierge Marie, nous trouvons refuge sous son manteau toujours ouvert. Elle nous abrite et nous accueille avec tendresse. Elle veille sur notre foi, garde nos relations dans la paix, nous soutient au cœur des tempêtes et nous dérobe aux assauts du malin en nous préservant ainsi de tout mal. Là où la Vierge demeure, le diable ne trouve pas d'entrée. Là où la mère se fait proche, ni l'inquiétude, ni la peur n'ont le dernier mot. Marie est l'arche sûre au cœur du déluge. Ce ne sont ni nos idées, ni nos technologies qui pourront offrir consolation et espérance, mais le visage de la mère, ses mains qui réconfortent et son manteau qui nous enveloppe de sa protection. Apprenons à trouver refuge en allant chaque jour vers la mère. Ne méprise pas nos prières. Quand l'espérance nous manque, quand la joie diminue, quand les forces s'épuisent, quand l'étoile de la vie s'obscurcit, Marie, notre mère, intervient. Elle est attentive aux peines, sensible aux difficultés, elle est proche de notre cœur. Elle n'a jamais honte de nous, au contraire, elle attend seulement de pouvoir aider ses enfants. À travers toutes nos épreuves, nos doutes, nos combats, la Mère de Dieu sait prendre sur elle, consoler, veiller, guérir. Si nous devons nous rapprocher de Marie, si cela nous est même demandé par le Christ à travers l'apôtre Saint Jean, c'est parce que Marie a des qualités, des attributs qui rendent son aide merveilleusement efficace. Même s'il n'est pas facile à tout le monde d'avoir une vraie dévotion à Marie, parce que souvent nous n'en comprenons pas le sens ou parfois nous ne savons pas comment nous y prendre, peut-être pourrions-nous commencer par nous rappeler que Marie est la première consolatrice et refuge des peines de Jésus. Nous avons tous des peines, des souffrances et parfois des souffrances cachées dont nous ne pouvons pas parler et cela nous rend l'existence difficile. Marie est celle qui peut partager tous les secrets et qui enveloppe nos souffrances de douceur. Elle appose un baume sur nos blessures, elle les soigne et souvent même elle nous permet d'en comprendre le sens. Souvent, nous ne savons pas gérer nos blessures, nos souffrances. Elles nous paraissent tellement pesantes, tellement lourdes à traîner que nous ne comprenons pas pourquoi nous devons les supporter et comment les supporter. Marie peut nous aider à porter cela et même, et c'est là son plus grand miracle, à trouver une joie, un bonheur malgré cette souffrance. Et peut-être même grâce à cette souffrance. Parce que Marie a souffert terriblement devant son fils mis en croix, elle a acquis comme une expérience de la souffrance et elle peut nous aider à faire que cette souffrance nous amène, comme pour elle, à toujours plus de profondeur, de sainteté, d'amour. Nous avons de multiples témoins qu'il suffise de nous rappeler comment Thérèse de Jésus, d'Avila, notre mère Sainte Thérèse, comme nous aimons l'appeler au Carmel, elle aussi eut recours à la Sainte Vierge quand elle perdit sa mère. Elle écrit « À l'époque où mourut ma mère, j'avais, je m'en souviens, près de 12 ans. Comme je commençais à comprendre la perte que je venais de faire, je m'en allais, tout affligé, m'agenouillé devant une statue de Notre-Dame. Je répandis des larmes abondantes et suppliais la très sainte Vierge Marie de me tenir lieu de mère. Il me semble que ma prière, bien que faite avec simplicité, fut accueillie favorablement, car il est bien clair que j'ai toujours trouvé un secours près de cette Vierge souveraine, chaque fois que je me suis recommandé à elle. Enfin, elle m'a amené chez elle. » Et nous entendons souvent de tels témoignages. Il faut aller sans hésiter vers Marie. Marie est notre consolatrice, notre réconfort, parce qu'elle est la mère parfaite et nous sommes devant elle comme des petits-enfants malheureux qui ont besoin d'elle. Mais il faut vouloir en faire l'expérience et se blottir souvent dans ses bras pour éprouver cette consolation, ce réconfort. Dans les moments difficiles, qui ne manquent pas dans la vie de chacun et de chacune, nous ne sommes pas seuls. Rappelons-nous aussi comment petite Thérèse a raconté ce sourire de Marie au matin de sa vie. À 4 ans et demi, Thérèse perd sa mère et elle vit dans le silence cette séparation brutale, sans pouvoir verser de larmes. Elle choisit alors sa sœur Pauline comme mère adoptive. Louis, son père, décide de s'installer à Lisieux avec ses 5 filles en novembre 1877 pour se rapprocher de la famille. À 8 ans et demi, Thérèse entre au pensionnat des bénédictines de Lisieux, mais elle revient le soir chez elle, le pensionnat étant proche du domicile familial. Elle y découvre une vie collective éprouvante. Elle affirmera plus tard que ces 5 années furent les plus tristes de sa vie. Au cours de l'été 1882, Thérèse a 9 ans, elle apprend fortuitement que sa sœur Pauline veut entrer au Carmel. La perspective du départ de sa seconde maman la pousse au désespoir et rouvre la blessure du départ de sa mère Zélie. Il faudra attendre l'âge de 10 ans pour qu'elle pleure sur la mort de sa mère dans ce nouveau contexte de séparation. Elle est en pension chez son oncle Guérin et celui-ci évoque avec elle le souvenir de sa maman. Thérèse pleure, mais son oncle l'interrompt. Il dit que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distractions, et résolut avec ma tante de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Les conséquences de cette fâcheuse indélicatesse de son oncle ne se font pas attendre. Thérèse tombe gravement malade avec des symptômes alarmants par une régression infantile, anorexie, douleur inexpliquée. La médecine ne comprend pas et renonce à la soigner. Sa famille, le Carmel, prie. En désespoir de cause, Louis, son père, fera demander une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. Un jour, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couché et lui donnant plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse Il lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touchée en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. Et elle poursuivra, il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Profondément blessée dans son enfance par le départ trop rapide de Zélie, la séparation de Pauline, les indélicatesses familiales, les relations difficiles à l'école, la maladie, Thérèse a été guérie par le sourire maternel de Marie. C'est le 13 mai 1883, en la fête de la Pentecôte, Thérèse, 10 ans, se tourne vers la statue de la Vierge qui se trouve près de son lit. La Vierge lui sourit et Thérèse est guérie subitement. Écoutons-la nous raconter cet épisode de sa vie. Un dimanche, pendant la neuvaine de messe, Marie, sa sœur, sortit dans le jardin me laissant avec Léonie, qui lisait auprès de ma fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas, « Maman, maman ». Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne fit pas attention à moi. Ceci durera longtemps. Alors, j'appelai plus fort et enfin, Marie revint. Je la vis parfaitement entrer, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais et je continuais d'appeler toujours plus fort « Maman ». Je souffrais beaucoup de cette lutte forcée et inexplicable et Marie, sa sœur, en souffrait peut-être encore plus que moi. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, elle se mit à genoux auprès de mon lit avec Léonie et Céline, puis se tournant vers la Sainte Vierge et la priant avec la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais vu rien de si beau. Son visage respirait une bonté, une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétrait jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Deux grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. À cet instant, Thérèse fut instantanément guérie, tant sur le plan physique que psychique. On sait aujourd'hui que l'épisode dramatique vécu par Thérèse à 10 ans, durant lequel elle fut accablée d'une grave maladie psychique pendant plusieurs semaines, ne correspond pas au diagnostic de névrose tel qu'on l'entend habituellement chez l'adulte. Les spécialistes en psychologie de développement savent aujourd'hui qu'à l'âge de 10 ans, on ne pose pas un diagnostic de névrose au sens clinique moderne. Le terme appartient aux classifications psychiatriques pour adultes et n'est plus utilisé officiellement pour l'enfant. Ce que Thérèse a traversé relève plutôt d'une réaction anxieuse liée à un vécu d'abandon, ce que certains psychologues décrivent comme une réaction abandonnique. Depuis plus de 6 mois, Thérèse vivait dans l'angoisse insupportable d'avoir perdu sa seconde maman, Pauline, entrée au Carmel le 2 octobre 1882. Cette séparation, vécue comme un véritable arrachement, avait plongé la petite Thérèse dans un état de détresse extrême. Elle adopta alors des conduites de régression, pleurs incessants, refus de s'alimenter, désir d'être traité comme un bébé, dans l'espoir de retrouver l'attention et les soins dont elle se sentait privée. Il s'agit d'un mécanisme d'adaptation non conscient, dont Thérèse, bien entendu, n'est absolument pas responsable. Ce mécanisme est parfaitement compréhensible chez une enfant de 10 ans. N'avait rien de pathologique au sens d'une structure névrotique fixée. Il s'agissait d'une réaction adaptative désespérée à une souffrance affective intense. Finissons le récit que Thérèse nous offre. Sans aucun effort, je baissai les yeux et je vis Marie, sa sœur aînée, qui me regardait avec amour. Elle semblait émue et paraissait se douter de la faveur que la Sainte Vierge m'avait accordée. Ah, c'était bien elle, à ses prières touchantes, que je devais la grâce du sourire de la Reine des Cieux. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, elle s'était dit « Thérèse est guérie ». Oui, la petite fleur allait renaître à la vie. Le rayon lumineux qui l'avait réchauffée ne devait pas arrêter ses bienfaits. Il n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement. Il releva sa fleur et la fortifia de telle sorte que 5 ans après, elle s'épanouissait sur la montagne fertile du Carmel. Cette grâce du sourire de la Vierge, survenue le 13 mai 1883, lui a permis de retrouver la santé physique et de fortifier son âme dans une confiance surnaturelle, marquant une guérison instantanée après des semaines de souffrance intense. Même si certains commentateurs de Thérèse à orientation psychologique ont minimisé, voire ont mis en doute ce miracle, le réduisant à un fantasme, une sublimation ou un mécanisme psychologique d'adaptation, comme une sortie hallucinatoire de la crise, ne sont pas dans la justesse. En effet, il serait réducteur de limiter cette intervention mariale au seul prisme de la psychologie sans considérer le concours de la grâce. Thérèse aurait-elle imaginé ce sourire? Ce qui est certain est que l'expérience du sourire de la Vierge, telle qu'elle rapporte, marque pour Thérèse un tournant décisif. Elle y trouve une issue intérieure à sa souffrance, une restauration psychique et spirituelle qui lui rend la paix, restaurant une image maternelle perdue. Les explications psychologiques, régression due à l'abandon, quête filiale et spirituelle, grâce divine purificatrice, action de la Vierge, ne sont pas antinomiques, mais complémentaires et coexistante. L'une n'exclut pas l'autre. La grâce n'abolit pas la nature, elle la traverse, la transforme. Ainsi, explication psychologique et grâce surnaturelle ne s'excluent pas. Elles peuvent coexister et même s'éclairer mutuellement. La psychologie aide à comprendre comment Dieu a pu rejoindre Thérèse dans sa détresse la plus profonde. La foi, elle, discerne dans ce sourire l'action réelle et miséricordieuse de Marie. Le temps, par la sainteté éclatante de Thérèse, a confirmé que cet événement n'était pas une illusion passagère, que son expérience ne relevait pas de l'imaginaire, mais d'une véritable rencontre qui a transformé sa vie de façon irréversible. C'est le temps qui confirme la grâce. Enfin, nous savons que cette grave maladie psychosomatique ne lui laissa pas de séquelles et qu'elle fut comme une annonce déjà prophétique de la grâce de Noël. Bien sûr, d'autres épreuves ont éprouvé la confiance de Thérèse. Le chemin de sa vie ne s'arrête pas à cette guérison. Il y en aura d'autres qui traverseront son existence. Et malheureusement, par manque de discrétion, de chasteté, dirions-nous aujourd'hui, de la part de ses sœurs de sang, elle perdit la joie de sa guérison jusqu'à douter du miracle opéré. Elle croyait même qu'elle avait menti. Lisons ce passage très important. Comme je l'ai dit, Marie, sa sœur, avait deviné que la Sainte Vierge m'avait accordé quelques grâces cachées. Aussi, lorsque je fus seul avec elle, me demandant ce que j'avais vu, je ne pus résister à ces questions si tendres et si pressantes. Étonné de voir mon secret découvert sans que je l'aie révélé, je le confiai tout entier à ma chère Marie. Hélas, comme je l'avais senti, mon bonheur allait disparaître et se changer en amertume. Pendant 4 ans, le souvenir de la grâce ineffable que j'avais reçue fut pour moi une vraie peine d'âme. Je ne devais retrouver mon bonheur qu'au pied de Notre-Dame des Victoires. Mais alors, il me fut rendu dans toute sa plénitude. Je reparlerai plus tard de cette seconde grâce de la Sainte Vierge. Cette grâce de guérison lui fut en effet accordée lors de son passage ici même à Notre-Dame des Victoires durant son pèlerinage à Rome. Je ne peux pas m'empêcher de vous relire ce passage si touchant. Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir. Aussi, nous eûmes bientôt toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit, cette merveille, Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. La grâce qu'elle m'accorda m'émure si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ainsi Thérèse expérimente de la façon la plus profonde l'amour maternel de Marie et elle y répond avec tout son amour filial. Ce témoignage de Thérèse nous invite à prier d'une manière particulière et avec une compassion profonde pour les nombreux enfants qui vivent aujourd'hui ce calvaire invisible, prisonniers de souffrances muettes qui rongent leur innocence, comme la séparation des parents, où ils s'accusent injustement d'en être la cause, comme si leur existence avait brisé l'harmonie familiale. Le harcèlement scolaire, ce poison insidieux qui mine profondément leur estime de soi, ou encore l'échec scolaire, perçu non comme un obstacle passager, mais comme une condamnation irrémédiable. Ces tourments, souvent entrelacés, peuvent les plonger dans un abîme de désespoir, menant à l'insupportable et à l'irréparable, tel le suicide. Nous entrons ici dans le mystère de la souffrance dont personne ici-bas n'est exempt. Thérèse a compris très jeune que la souffrance faisait partie de sa vie. Elle ne l'a pas choisie, mais elle lutte dans et par la foi. Alors, offrez à ses enfants la possibilité de se réfugier auprès de la Sainte Vierge, Marie est la consolatrice des affligés. Thérèse d'Avila, comme petite Thérèse, agenouillée en prière, expérimente le réconfort de Marie comme un baume de bonne odeur. La Vierge Marie partage nos secrets, soigne nos plaies et opère le miracle d'une sainteté dans la souffrance. Dans nos fardeaux pesants, les Thérèses nous enseignent l'espérance filiale à nous blottir en Marie, comme des enfants qui pleurent pour que la croix devienne chemin d'espérance. Et Marie, Mère de la Miséricorde, ne méprise aucune prière et console les affligés. Pour le pape François, l'espérance est une tendresse en acte. Marie, donnée à Jean, nous enveloppe de sa douceur pour partager nos souffrances cachées, les guérissant par la compassion de son Fils. Son Immaculée Conception est le premier acte de cette miséricorde. François évoque souvent les blessures du peuple et Marie y applique un baume de tendresse. Comme les deux Thérèses qui suppliaient Marie de devenir leur propre mère, nous pouvons verser nos larmes en toute simplicité sur son cœur immaculé. L'espérance chrétienne n'est pas l'absence de peine ou de douleur, mais sa transfiguration par la grâce. Marie, donnée comme mère à Jean, nous enveloppe de sa tendresse pour que nos blessures deviennent semences de sainteté. Amen.